Hello Rubina, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Bienvenue à toi.
Merci, merci Amandine.
Alors en ce moment, on enregistre, je suis en Thaïlande, tu es en Inde. Donc on a
je suis en Thaïlande aussi.
Ah, t'es en Thaïlande ?
Depuis hier matin.
Ah oui, c'est vrai.
Donc on est sur le...
J'aime cette vie. Eh bien voilà, ça me donne l'occasion d'expliquer à toutes les personnes qui écoutent ce podcast en quoi j'adore ton parcours et ce que tu proposes. Déjà, tu es digital nomade, donc tu voyages un peu partout. Tu vois, tu étais à Bali récemment, même à Copenhague avant. Là, tu es en Inde, après tu vas arriver en Thaïlande et tu as cette âme voyageuse qui aime te nourrir des traditions ancestrales. Donc, tu as un parcours de CEO, c'est-à-dire que tu pilotes une entreprise qui est autour de... Tu vas nous le dire un peu plus en détail, mais qui est autour du féminin, de sa puissance, de sa yoni, du tantra. Et en même temps, tu continues de vivre, d'explorer la vie, le vivant, toutes les personnes qu'il y a autour et qui nous nourrissent et qui ont des enseignements à nous donner. Je crois que tu étais au Tao Garden récemment.
Je vais y aller là maintenant. Ça commence vendredi. mais je comprends, c'est si compliqué de suivre ma vie parce que tout est en permanent déplacement. Donc.
Et moi, je suis passionnée par les personnes comme toi, qui pour moi, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de t'avoir invité, qui incarnent les prêtresses des temps modernes, qui ont des business orgasmiques, parce que tu as un business, mais tu t'es pas coupé de ta vie, tu t'es pas enfermé. D'ailleurs, ton business, c'est lui qui te nourrit aussi, qui va nourrir sur plusieurs plans, mais ton être et tout ce que tu fais, ta créativité. Et moi, j'ai envie de montrer au monde qu'on peut être dans un nouveau paradigme business, c'est-à-dire créer une entreprise, c'est pas se couper du monde, se couper de la vie et se dire « bon, bah, je crée mon entreprise, elle a du succès, mais à côté, je ne vis plus ». Au contraire, tout est imbriqué entre le personnel et le professionnel. Et pour moi, tu l'incarnes à 100%, donc je suis hyper contente que tu viennes témoigner de ça, à quel point on peut créer sa vie. Et on va en parler, tu vas sortir un podcast, un sommet « Souveraine et créatrice ». Donc je pense que tu es l'exemple parfait du fait qu'on puisse revenir à l'intérieur de nous pour porter nos créations au monde et être pleinement créatrice de notre vie. Donc, merci, Rubina, d'être présente parmi nous. Merci à toi. Et j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité pour toutes les personnes qui nous écoutent?
Oui, avec plaisir. Alors, ça va pas être la phrase type de « j'aide les personnes X à faire ça » parce que ça a été un vrai processus de repositionnement ces dernières années. J'ai commencé avec un focus principal sur la sexualité, donc le fait d'accompagner les femmes à connecter avec leur sexualité, avec leur corps, un focus vraiment plus sur l'aspect orgasmique plaisir. Donc ça, c'est été le point de départ. Au fur et à mesure, ça a évolué. J'ai pris conscience de toute la complexité que ça demande, parce que pour une grande majorité de femmes, même si la recherche peut parfois être de ce domaine orgasmique, en réalité, il y a beaucoup de choses en amont qui empêchent d'expérimenter le plaisir, du vivre le plaisir. Donc ça a été la première partie pour enrichir l'accompagnement. Donc tout l'aspect émotion, connexion au corps, le fait de s'écouter, le fait de s'aimer. Donc tous ces aspects-là qui sont venus petit à petit être comme une base, une fondation. Donc ça s'est enrichi de ce côté-là. Et ensuite, ça a été une autre démarche, me dire pourquoi je fais tout ça en fait, quel est le but. Donc moi, le but de ma vie, c'est pas juste que des personnes aient des orgasmes et du plaisir sexuel. C'est important, mais pour moi, c'est pas ça qui me motive en fait, c'est pas ça qui me drive. Et quand je me pose cette question, moi, ce qui me drive, c'est que les personnes soient libres, souveraines, créatrices. Et pour moi, cette souveraineté, cette liberté, c'est avant tout intérieur. Donc, c'est pas, quand je dis liberté, c'est pas dans le sens adolescent rebelle, je fais ce que je veux, je m'en fous de tout. C'est vraiment aller connecter avec les parties les plus profondes de soi et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ce monde. Et peu importe ce que c'est en fait, peu importe quelle est la façon dont ça s'exprime, que ça s'exprime au sein de ma cellule familiale, que ça s'exprime à l'échelle de ma ville, que ça s'exprime au niveau mondial, peu importe. Mais en tout cas, je réveille une partie intérieure en moi qui a envie de s'exprimer. Et beaucoup de personnes, en fait, vont rencontrer des freins dans ça. Et c'est là, en fait, que je suis venue faire le pont entre les deux, donc entre mon activité de cœur que j'ai envie de garder, en fait. J'ai pas envie d'abandonner toute cette partie parce que pour moi, c'est cœur et c'est clé et c'est vraiment une porte d'accès. C'est pas la seule porte d'accès, il y a d'autres portes d'accès, mais c'est une porte d'accès qui peut être hyper forte. Donc la porte d'accès de la sexualité, de l'énergie sexuelle, du corps, de la yoni. Et à partir de ça, en fait, comment est-ce que je fais de ce chemin-là, un chemin qui va m'aider à connecter avec mes puissances créatrices, avec ma liberté, avec ma souveraineté. Parce que pour être souveraine, j'ai besoin d'avoir de la clarté. Je ne peux pas être souveraine parce que si je veux être souveraine sans avoir la clarté intérieure, je vais parfois aller dans des chemins qui vont être plus des conséquences de mes conditionnements versus une vraie expression de ma liberté. Donc en fait, c'est comme ça que s'est fait le pont. C'est encore en train d'atterrir, en fait, l'exact format de comment tout ça va se structurer. Ce vers quoi je vais aujourd'hui, c'est garder ce cœur, c'est-à-dire guider les femmes à connecter avec leur corps, à travers notamment donc, leur bassin. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la zone cœur. Donc j'ai vraiment envie que ce soit le cœur de mon accompagnement, avec le fait d'incorporer tout ce qui est nécessaire pour ça, c'est-à-dire la capacité à aborder tout ce qui bloque, en fait. Donc toutes les limitations, toutes les croyances, toutes les peurs qui peuvent émerger avec ce processus-là. Et ça amène vraiment à aller au cœur de nous, au cœur de nos blessures, au cœur de nos peurs. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas uniquement dans notre sexualité, c'est des choses qui s'expriment dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour ça que du coup, ça amène à faire un travail qui est très global pour aller vers cette expression créatrice, pour aller vers cette capacité à être créatrice de notre vie. Donc, pour l'instant, c'est vers ça que je vais. Et je suis toujours ce qui est vivant pour moi. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas me fossiliser dans quelque chose. Et mes enseignants principaux, c'est la vie. Donc, ce qui se passe dans ma vie, dans mon processus personnel, puisque ça a toujours été ça, le driver, en fait, des différentes évolutions. Et aussi les personnes avec lesquelles je travaille. Donc, quand je propose quelque chose, et je trouve que c'est ça aujourd'hui qui est précieux avec tout l'entrepreneuriat tel qu'il est aujourd'hui, c'est la capacité d'ajuster en permanence. C'est-à-dire que je ne me fossilise pas dans quelque chose, je propose quelque chose, je vois comment ça répond, je vois comment ça réagit, je vois comment ça aide les femmes à transformer quelque chose, je vois les morceaux qui manquent et j'ajuste, en fait. Et c'est un des fils conducteurs pour moi dans mon accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, parce que c'est ça qui est vivant pour moi, et je m'autorise à modifier autant de fois que c'est nécessaire si je sens que, un, ça me nourrirait plus, et deux, si ça serait plus bénéfique pour les femmes que j'accompagne.
Ce que tu dis, pour moi, c'est précieux que tu puisses le dire ici sur le podcast pour toutes les femmes que j'accompagne, parce que je te le disais juste avant, ce que j'observe dans le milieu du business en ligne de l'accompagnement, c'est qu'on va se positionner sur un sujet en particulier et que parfois, on va pas oser se repositionner ailleurs parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce que mes clients ils vont penser? Est-ce qu'ils vont toujours rester, etc. Là, par exemple, j'ai une cliente qui était business coach avant et qui se repositionne, Aurélia, et je vous invite à écouter le podcast, toutes les personnes qui écoutent, prêtresse de l'Alliance Amoureuse. Donc, c'est un positionnement où avant, c'était la partie business et aujourd'hui, c'est prêtresse de l'Alliance Amoureuse. C'est totalement différent. Et quand on fait un switch comme ça, bah forcément, on perd des clients puis on a une nouvelle communauté. Moi, les Terres d'Alma, quand on a cheminé et qu'on... En 4 ans, en fait, on a changé 4 fois de positionnement. Donc clairement, la communauté, à chaque fois, elle a besoin de se renouveler. Il y a plein de personnes qui vont partir d'un coup et en même temps, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Donc c'est ultra flippant de quitter quelque chose qui fonctionne pour aller vers quelque chose où on ne sait pas réellement. Est-ce que tu peux nous raconter, pour les personnes qui n'osent pas faire ce saut, et du coup, alors je donne une petite précision, toutes les personnes qui n'osent pas faire ce saut, c'est la mort assurée. Je suis désolée, j'utilise des mots forts, mais en fait, c'est la vrai, mort assurée. C'est alors soit de mort, soit la mort assurée de votre business, parce que de toute façon, la vie, normalement, elle va envoyer des petites secousses pour que vous puissiez changer. Donc, d'un seul coup, les clients, ils n'arrivent plus, ou je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe, ok. Donc, ça, c'est le chemin. Soit la mort assurée de notre âme, parce que quand on est dans... Alors, l'âme ne meurt pas, mais voilà, on comprend ce que je veux dire. Quand on est dans un endroit qui n'est pas le nôtre, l'étincelle de vie, elle commence à s'affaiblir. Et c'est marrant, j'ai une cliente la dernière fois qui disait à une autre cliente, oui, mais ton étincelle de vie, elle ne va pas disparaître. Ben, moi, j'étais pas tout à fait d'accord. Parce que l'étincelle de vie, si on la nourrit pas au quotidien, le moment où elle s'éteint et elle est toute petite, pour venir la récupérer, moi, je trouve qu'il y a du taf de ouf. Il faut y aller, quoi. Est-ce que tu peux nous partager quelles sont tes clés à toi pour changer ton positionnement et avoir ce courage et cette force? Parce que ce podcast, aujourd'hui, on va parler beaucoup de la posture de souveraine, être souveraine et créatrice. Comment tu fais pour oser y aller alors que c'est flippant, en fait, de changer de positionnement quand on a une entreprise?
100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est flippant, c'est vrai, parce que à chaque fois qu'on change, que ce soit le positionnement, que ce soit les prix, que ce soit le message, on perd une partie des personnes. Et je pense que la première clé, c'est qu'il faut accepter ça. Et la réalité, c'est que même quand on ne change pas de positionnement, on perd dans tous les cas une partie des personnes à un moment donné. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on accompagne, c'est toujours un point de rencontre. Quand il y a une rencontre, c'est qu'il y a un alignement de ce que la personne recherche à un moment donné de sa vie qui change, et de ce qu'on propose à ce moment de la vie qui change. Et du coup, cette rencontre a lieu quand les deux sont alignés. Donc, dans tous les cas, il faut accepter que cette rencontre, elle n'est pas éternelle. Même avec les clients avec qui il y a un vrai match, à un moment donné, il peut y avoir des chemins qui se séparent, pas parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce que c'est la nature même de la vie, en fait. Et Dieu merci, parce que la nature de qui nous sommes, donc si on accepte d'être dans cette constante évolution, dans ce constant changement, et pour moi, ça, c'est une valeur clé et fondamentale de ma vie, c'est normal, en fait. Et c'est pareil, pas juste avec nos clients, les personnes qu'on accompagne, c'est pareil aussi dans nos amitiés. Donc moi, je sais qu'au cours de ces dernières années, mon cercle d'amis s'est énormément renouvelé, et pas parce qu'il y a un problème d'un côté ou de l'autre. Parfois, il y a des clashs, ça existe, mais globalement, c'est juste, voilà, on s'est rencontrés à un moment donné parce qu'on était sur un certain alignement, et à un moment donné, chacun avance, continue à avancer, Dieu merci, et du coup, il n'y a plus ce croisement. Et on se quitte, on rencontre de nouvelles personnes avec qui on est plus aligné, ça va durer un temps, et très probablement, à un moment donné, ça va aussi se séparer. Donc pour moi, ça fait partie de la nature de la vie, ce flot mouvant. Et je pense que ce qui empêche d'embrasser ça, c'est une certaine volonté que les choses restent fixes. Et la réalité de la vie, c'est que rien n'est fixe. Ça n'existe pas, la fixité. C'est pas possible. La fixité, c'est la mort. Et à partir du moment où on accepte cette fluidité, on accepte de suivre notre flot et le flot de ce qui se passe dans notre vie, on est amené à évoluer. Maintenant, la façon dont ça se fait, ça peut se faire plus ou moins dans la douleur. Et il faut aussi embrasser cette peur. Donc oui, moi aussi, quand je change de positionnement, initialement, j'avais deux programmes qui fonctionnaient très bien, qui marchaient très bien. À un moment donné, moi, je ne me sentais plus dans l'alignement pour les accompagner. Je ne prenais plus plaisir à. Et j'ai pris la décision de les arrêter. Et donc ça aussi, c'est flippant quand c'est les deux programmes qui font la quasi-totalité de mon chiffre d'affaires, de me dire « Ok, j'arrête ça, et qu'est-ce que je fais après ?» Et il y a une peur qui est là, et en même temps, ça a donné naissance à d'autres choses qui me nourrissent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai une formation professionnelle, je prends un grand plaisir à la faire, j'accompagne des femmes dans cette formation voilà, qui sont pour moi dans l'alignement des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, je prends plaisir à être avec elles, je prends plaisir à créer cette formation, et c'est quelque chose qui n'aurait probablement pas eu lieu si j'avais tenu à des choses qui fonctionnaient, parce que ça fonctionnait, la réalité c'est que ça fonctionnait. Donc, accepter la fluidité de la vie, accepter la peur, c'est une réalité, et voir vers quoi ça nous mène, et très probablement ça va nous mener vers de très belles choses.
Moi, la chose dont je suis sûre, et puis tu viens le confirmer, c'est qu'à chaque fois qu'on change de positionnement, qu'on regarde, qu'on a peur, mais qu'on suit l'énergie du feu intérieur, l'énergie du cœur, généralement c'est ok en fait, mais bon, on a besoin d'avoir confiance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la formation professionnelle que tu proposes ? Parce qu'en fait, tu accompagnes vers l'intimité du féminin. Donc, je crois que ta formation, elle est vraiment là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment tu as construit ta formation et c'est quoi l'intention et le parcours vers lequel t'amènes ces femmes ?
Alors, mon parcours personnel, du coup, il a été fait de différents morceaux. Et l'intention, c'était vraiment d'amener ça dans la formation. Donc, c'est toujours le cœur de la formation, c'est au cœur... C'est l'intimité, donc le bassin, la sphère intime. Donc, je vais beaucoup utiliser le mot yoni, donc pour celles qui ne sont pas familières. Donc, c'est un terme sanskrit qui va faire référence aux organes génitaux féminins. Donc, le cœur, c'est ça. Et autour de ça, en fait, il y a tous les fondamentaux qui sont indispensables pour pouvoir connecter à cette zone. Donc, c'est la connexion au corps, c'est la connexion avec les émotions, c'est l'amour de soi. Donc, un gros morceau de la formation, c'est autour de ça. C'est comment est-ce que j'accompagne les femmes à connecter avec leur intime d'une façon qui est ancrée, qui est intégrée, qui va prendre en compte l'ensemble de ce qu'elles sont. Et ensuite, sur ça, on peut construire comment est-ce que j'active le plaisir dans mon corps, comment est-ce que j'active la circulation de mon énergie sexuelle dans mon corps. Mais pour moi, ce fondement, il est indispensable et essentiel. Donc, dans la formation, la partie activation de l'énergie sexuelle plaisir, elle arrive plus comme une expansion de ces fondements versus on va commencer à parler de plaisir, d'orgasmicité, d'énergie orgasmique sans avoir parlé de tout ça. Donc, c'est ça qui est en train de se construire dans cette formation. Donc, cette formation aussi, elle se révèle au fur et à mesure que je la crée. C'est ça aussi, quand on a un modèle où on suit les messages qui viennent, qu'on suit le flow tel qu'il se déroule, on ne sait pas exactement dans quelle direction exactement ça va atterrir. Et c'est ça qui se révèle aujourd'hui, parce qu'on a bien avancé dans la formation. Donc, le nom initial, c'était Tantrika. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la formation est nommée. Mais je sens que ce nom, ce n'est pas ce que j'ai envie de... J'attends un nouveau nom. Donc, je pose comme intention quelque chose qui reflète, en fait, cet aspect ancré, intégré, en fait, dans ses fondements. Donc, quelque chose qui va vraiment être focus sur la Uni. Donc, très probablement, la prochaine édition de la formation va changer de nom. Et donc, l'idée aussi, c'est de donner aux femmes qui... vivent ces transformations en elles-mêmes. Donc pour moi, ça, c'est une partie qui est très, très, très importante de cette formation, c'est que ce n'est pas théorique, en fait. Donc cette connexion au bassin, ce n'est pas quelque chose que je lis sur des slides. C'est quelque chose qui doit être incarné, quelque chose que je peux transmettre, puisque c'est en moi. Donc la première partie de la formation, c'est vraiment cette partie où elles font les pratiques pour vivre les choses, pour vivre les transformations dans leur corps. Et ensuite... Il y a une partie où elles vont pratiquer, du coup, elles vont accompagner d'autres personnes. Donc ça, c'est le deuxième pan. Et la troisième partie, c'est la partie business. Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable en tant qu'entrepreneur d'avoir des outils pour ça. Donc je ne me prétends pas coach business, mais j'ai appris beaucoup de choses au cours de mes années d'activité. Et c'est des choses qui sont importantes parce que c'est bien d'avoir vraiment de très beaux outils pour accompagner. Et si je n'ai pas la capacité à porter mon message, mais en fait, ça ne va pas aller très loin. Donc, il me tient à cœur aussi dans cette formation de leur donner des outils de base qui vont leur permettre de lancer leur activité. Après, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Toute la partie business, moi, je continue à apprendre. La vie continue à apprendre. Mon entreprise continue à m'apprendre. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement aussi qui se structure par les différentes phases dans lesquelles on est. Donc, les différents paliers que je passe, bah, forcément, au fur et à mesure que j'apprends, qu'est-ce qui se passe à ces différents paliers. Je ne peux pas parler de paliers auxquels je ne suis pas. Mais en tout cas, aux femmes de la formation, je peux transmettre les clés des différents paliers par lesquels moi, je suis passée. Donc voilà, c'est ça les trois morceaux de la formation. Donc une partie vraiment sur la transformation personnelle, une partie pour accompagner, parce que ça aussi, c'est une vraie capacité. Ce n'est pas parce qu'on incarne les choses qu'on a forcément la capacité à les transmettre et à accompagner autour. Et troisième partie, du coup, la partie business.
J'en profite, merci pour tout ce que tu as partagé, j'en profite pour donner une petite précision sur les paliers pour toutes les personnes qui nous écoutent. Mmh. C'est que souvent aujourd'hui, donc les personnes qui ont envie d'être accompagnantes et puis notamment dans le business en ligne, parce que c'est clair, on va pas se le cacher, moi je trouve qu'on a une vie de rêve, tu vois, enfin c'est...
Je me plains pas.
Non mais on peut travailler d'où on veut, ce qu'on crée ça vient de nous, de tout ce qu'on a exploré à l'intérieur de nous, donc tout ce qu'on a alchimisé, on peut le diffuser. Enfin, c'est juste complètement incroyable. On est en connexion avec des gens qui nous nourrissent et puis pour moi qui sont à des hauts niveaux de souveraineté. Donc c'est sûr que le milieu du business en ligne c'est magique. Après, ça nécessite de la rigueur et de la discipline. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour les personnes qui veulent juste gagner comme ça facilement sans se donner corps et âme, j'ai envie de dire, ça ne fonctionnera pas. Il y a vraiment un truc de déploiement personnel. Et quand tu parles de paliers, quand Rubinal vous parle de paliers, il y a des paliers où, par exemple, quand on commence à être accompagnant, bah, on va faire quelques ateliers où on va avoir un client, deux clients, on va tester, on va avoir des clients cobayes. Ça, c'est vraiment, on teste sa pratique. Après, il va y avoir les paliers où progressivement, on va vendre des séances individuelles, ça va cartonner. Après, on va vendre des accompagnements, généralement sur du long terme, parce que souvent, quand on accompagne, on adore la transformation. Après, il y a d'autres paliers où dans tout ça derrière, il y a des paliers de chiffre d'affaires, mais souvent après, on va accompagner en groupe parce qu'on sent qu'il y a une essence avec le groupe. Et puis après, on s'élève de plus en plus dans sa posture de guide. C'est juste pour informer toutes les personnes qui nous écoutent que oui, il y a des paliers business et très souvent, ça passe aussi, bien sûr, par des paliers chiffre d'affaires. Et quand Rubina, elle vous parle de paliers aussi. Plus on grandit dans notre entreprise, plus on a aussi une équipe. Donc aujourd'hui, Rubina, par exemple, t'organise le sommet Souveraine et créatrice. Et ce sommet-là, Rubina, elle ne l'organise pas toute seule, parce que si elle le faisait toute seule...
J'ai fait le premier quasiment comme ça, je me suis cramée. Donc, toute seule, c'est compliqué.
Merci de le partager. Moi, je le dis tout le temps, mais c'est tellement important. On a été dans un paradigme business où il faut le mériter, il faut prouver qu'on peut le faire. Mais c'est tellement fatigant d'être tout seul et d'être accompagné, c'est mieux. Et je précise que là où je suis en ce moment, en Thaïlande, à Koh Phangan, c'est très drôle, parce que dimanche soir, j'ai rencontré Maya, qui est la web designer du sommet, créatrice et souveraine. Et j'ai trouvé ça très drôle qu'on se rencontre comme ça dans la rue et qu'après, on se rencontre par rapport au sommet. Donc, elle fait le design du sommet. Et j'avais très envie que vous découvriez aussi ce qu'est le sommet que propose Rubina, parce que Rubina, pour vous dire, elle a l'habitude d'organiser des sommets, enfin, t'as l'habitude d'organiser des sommets assez souvent. Au mois de juin, j'ai participé à ton sommet de la Yoni. Et tu proposes des expériences où on peut s'élever dans notre puissance progressivement, et notamment sur le sommet là que tu vas proposer. Tu m'as dit, ouais, j'ai vraiment envie, c'est sur 5 jours, tu m'as dit, j'ai vraiment envie que ce soit pas en mode patchwork avec plein de conférences un peu disparates, mais j'ai envie qu'il y ait un vrai cheminement et qu'on propose un programme de qualité. Et je tiens à vous le dire là maintenant, parce que du coup, je connais les intentions de Rubina, quand tu les poses, je les ressens, je connais tes intentions. Et en fait, pour moi, le sommet qui va sortir, ça va pas être juste une série de conférences, ça va être un vrai programme, comme si vous participiez à un vrai programme, une formation en ligne, ça va être qualité de ouf. Et en fait, ce que j'ai le plus apprécié dans ton sommet, c'est le parcours que tu proposes en 5 étapes. Et moi, j'ai vu ma vie à travers le parcours que tu proposes à 5 étapes. Est-ce que tu peux nous raconter le fil conducteur du sommet, enfin déjà l'intention du sommet, revenir dessus, et le fil conducteur du sommet, parce que moi j'ai trouvé que c'était hyper précieux, le chemin que tu proposais, et je suis sûre et certaine que toutes les personnes qui vont y participer vont gagner un niveau de puissance de dingue dans leur vie en fait.
Alors, effectivement, c'est le 4e sommet que j'organise. Je trouve que c'est très puissant d'organiser un sommet parce que c'est vraiment comme une sorte de grand boost d'énergie, donc un grand focus d'énergie, parce que il y a évidemment, donc moi je parle de ce sommet à travers différents canaux, il y a aussi chacune des intervenantes qui diffuse, et donc du coup quand on se rencontre dans cette semaine-là, c'est hyper puissant l'énergie qui est condensée. Et du coup ça peut être aussi une vraie propulsion dans la vie des personnes qui participent, avec l'avantage de découvrir différentes approches. Donc, tu vois, dans ce sommet, on sera 23 participantes. Bon, généralement, je fais des sommets entre 20 et 25 participantes autour de ça. Et ça permet, en fait, aux femmes qui assistent de découvrir différentes approches. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce qui fait la rencontre entre deux personnes, donc la personne qui va être accompagnée, la personne qui va accompagner, c'est qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Et un sommet, c'est l'occasion de découvrir, en fait, 23, 25 approches différentes et de voir qu'est-ce qui résonne pour moi. Et dans ma vision des choses, c'est aussi un vrai espace de collaboration pour les personnes qui accompagnent. Moi, je vois pas les personnes avec lesquelles je travaille dans le même, dans le même champ, comme des personnes avec qui je suis en compétition. Donc, c'est très fréquent que des personnes qui viennent me voir sur un accompagnement autour de l'intimité aillent voir d'autres personnes qui accompagnent aussi dans l'intimité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très complémentaire, parce que ce que moi je partage, c'est pas du tout la même chose que d'autres femmes qui sont exactement dans le même domaine, la même thématique. En fait, elles vont le partager avec leur expérience de vie, avec leurs outils, avec leur énergie. Et du coup, les personnes vont retirer des choses différentes. Donc, ça, c'est un des principes qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est cette collaboration. Et au fur et à mesure des sommets, j'ai pu aussi créer des liens humains aussi avec les personnes qui participent, avec les personnes qui interviennent dans le sommet. Donc, il y a des personnes avec qui on garde le lien. Tu vois, quand on est dans la même zone géographique, on peut aussi se rencontrer. Et pour moi, ça, c'est précieux parce que, tu vois, cette industrie du coaching, de l'accompagnement, on connaît les noms. Donc, même si on ne connaît pas forcément chaque personne une à une, on connaît les noms. Tu vois, c'est pas infini comme champ. Et je trouve ça intéressant et important aussi, tu vois, quand ça marche, tu vois, on ne matche pas avec tout le monde, hein. Il y a des personnes avec qui on ne matche pas, et ça aussi, c'est normal, mais tu vois, d'approfondir le lien, de créer des liens de collaboration, tu vois. Donc ça, c'est un des principes, et au fur et à mesure que j'ai pu organiser des sommets, j'ai pu me rendre compte aussi qu'il y a deux choses qui sont importantes pour moi que j'ai envie de transmettre, donc c'est cette idée de parcours, tu vois, que ce ne soit pas juste un patchwork d'intervention, parce que jusqu'à présent, tu vois, c'est-à-dire que j'aime les personnes que j'ai invitées au sommet, mais parfois, tu vois, c'est le calendrier qui va plus fixer le parcours versus une vraie cohérence. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie qu'il y ait une vraie cohérence, tu vois, qu'il y ait un cheminement qui soit proposé. Donc, ça a conduit à cette idée de journée thématique. Et évidemment, pour les personnes qui participent, que ce soit une vraie immersion, donc un vrai parcours dont elles peuvent bénéficier, qu'elles choisissent de se faire accompagner par une des personnes ou non. Et parfois, ça nécessite aussi un temps de maturation, parce qu'on peut découvrir certaines choses, on peut sentir l'appel, et parfois, la personne va avoir besoin de 1, 2, voire 3 plus années avant de se sentir prête à passer le pas. Et pour moi, ça fait partie aussi de la vision long terme. Donc moi, j'ai une vision long terme de mon accompagnement. Encore une fois, pas dans une forme fossilisée, mais je suis là pour le long terme. Et ça veut dire que les personnes qui viennent dans mon champ, donc les personnes qui se sentent appelées par ce que je propose, elles peuvent rester là tant que ça les nourrit, et à un moment donné, quand elles se sentent prêtes, en fait, elles peuvent sauter le pas de l'accompagnement. Donc, pour revenir à la thématique, donc comment le sommet est construit, le thème du sommet, c'est souveraine et créatrice. Le message que j'ai envie de porter, la vision que j'ai envie de porter, c'est que chaque être est à ses capacités d'être un être souverain, libre et créateur. Donc, ce sommet, il s'adresse plutôt aux femmes, parce que je travaille beaucoup avec les femmes, mais en soi, ce n'est pas interdit aux hommes non plus. Donc, c'est des hommes qui se sentent en résonance avec les thématiques qu'on propose, ils sont évidemment bienvenus. Mais c'est vrai que moi, vu que j'accompagne principalement les femmes, les messages que je porte sont souvent avec cette intention-là, mais c'est ouvert. Mais les principes sont les mêmes pour tout le monde. On est des êtres libres, souverains et créateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que chacun les exprime ? Non. Donc il y a des personnes qui sont dans cette expression de leur souveraineté, de leur liberté, de leur créativité, qui s'autorisent, qui créent leur vie dans un espace d'alignement. Donc l'alignement, c'est hyper important. Et qui osent. Donc qui osent, une fois qu'elles se sentent ce qu'elles sont là pour faire, elles osent le faire, elles osent l'incarner. Et il y a une partie des personnes qui sont dans cet espace-là. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, en fait, donc qui aimeraient être libres, créatrices, souveraines, qui aimeraient faire des choses en alignement avec leur cœur et qui n'osent pas. Et pour moi, la première étape, c'est comment est-ce que je construis des fondements solides, des bases saines. Et ça peut commencer par un vrai travail de thérapie, un vrai travail de fond sur la guérison des traumas. Donc spécifiquement, quand il y a des traumas, ça peut être un obstacle majeur pour entrer dans notre créativité. Donc déjà, il y a un travail de consolidation à faire. Si la personne a eu des expériences de vie très difficiles qui ont amené des traumas majeurs, on ne peut pas faire l'impasse de ça. Donc pour moi, ça commence par ça. Et au-delà de cette consolidation dans des cas où il y a eu des traumas majeurs, dans tous les cas, chaque être a besoin de fondations solides. Donc c'est une connexion au corps, c'est une connexion aux émotions, c'est un système nerveux régulé. Donc c'est des sujets dont on entend beaucoup parler, mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette base-là. Parce que si je n'ai pas fait ce travail de fond, si je n'ai pas construit ces fondations solides, et je commence à aller vers des contenants, enfin, tu vois, des accompagnements qui sont beaucoup sur le quantum, tu vois, le pousser, l'énergie, etc., sans avoir ce grounding, en fait, cet ancrage, ça risque de faire un peu comme un soufflet. Parce que je vais être portée par l'énergie, parce que l'énergie est là, l'énergie me pompe, la personne qui guide, elle peut me donner cet élan, tu vois. Mais si je n'ai pas ça, s'il y a beaucoup de parties de ma personnalité qui sont en opposition, qui ont peur, qui freinent des quatre pattes, ben en fait, oui, je vais être portée un moment et puis à un moment donné, ça fait... Pff. Et pour éviter ça, pour moi, il n'y a rien qui remplace ce travail de fond. Donc ça, c'est la journée 1 qui est vraiment dédiée au fait de construire des fondations saines. Ensuite, le deuxième ingrédient qui est important pour moi et que beaucoup d'entrepreneurs ignorent, c'est la connexion à notre énergie sexuelle. Donc moi, ça a été le cœur de mon travail... Une des clés, en fait, qui m'a permis d'oser. Donc, pour moi, c'est ça qui a été vraiment le catalyseur pour oser. Et l'énergie sexuelle, pas comme on l'entend nécessairement de façon habituelle, c'est-à-dire pas juste le désir, etc., c'est l'énergie sexuelle comme force vitale de vie qui circule à travers moi, qui me porte, qui va activer différentes capacités en moi. Donc, l'énergie sexuelle qui va commencer à circuler dans tout mon corps, qui va activer les différents chakras avec les différentes... qualités qui vont avec et qui va m'aider en fait, donc à la fois dans le monde matériel, dans ce que j'ai envie de manifester et à la fois dans la création avec la source, on peut l'appeler comme on veut, le higher self, le soi, ce qu'on veut en fait. Donc je suis pas attachée aux mots qu'on utilise, mais il y a quand même quelque chose de fondamental quand on connaît avec l'essence de notre être qui nous nourrit, qui nous guide. Et donc ça amène à la troisième journée. Donc la troisième journée, c'est connecter avec plus grand que soi. Donc là aussi, on peut utiliser les termes qu'on veut. Mais concrètement, c'est comment est-ce que je connecte avec une guidance. Pareil, on peut l'appeler comme on veut, la conscience universelle, la conscience, higher self, ce qu'on veut. Le terme, peu importe, mais il y a quelque chose qui me guide. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me guide. Et quand j'écoute ça, ça avance bien. Quand j'écoute pas ça, ça se casse la gueule. Et j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Je sens les choses, j'écoute pas, je me dis non, 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 non. Le mon mental intérieur, il rationalise, il me dit non, 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 ça va aller. Et en fait, je me casse la gueule. Constamment. Donc du coup, c'est aussi commencer à écouter cette guidance, commencer à dire « Ok, je sens cet appel, ça me fait grave flipper, c'est pas grave, j'y vais quand même. » En fait, toute mon activité s'est construite comme ça. Genre, ça vient, je me dis « Non, je peux pas faire ça. » Et en fait, j'écoute, et ça se construit de cette façon-là. Donc pour moi, ça fait partie de ce nouveau paradigme business aussi, c'est comment est-ce que j'écoute cette guidance intérieure, pas juste le rationnel. Et en fait, le fait de connecter à ça, ça permet aussi de faire les choses de façon beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que quand je crée quelque chose aujourd'hui, c'est pas je m'assois dans mon ordinateur et je fais 3 milliards de recherches et je laborieusement je ponds quelque chose. Donc oui, je fais beaucoup de formations, il y a plein de choses que je fais, donc je me nourris beaucoup. Mais en même temps, la façon dont les choses se créent, ce n'est pas d'un espace laborieux, difficile, c'est quelque chose, ok, je me nourris, j'intègre ce dont je me nourris, et ensuite, qu'est-ce qui sort de tout ça? Qu'est-ce qui sort à chimiser avec mon expérience personnelle? Et du coup, ça va plus vite. Troisième journée. Quatrième journée, c'est comment est-ce que je deviens créatrice de ma vie? Et cinquième journée, c'est le leadership intégré. Donc pour moi, ces deux parties vont aussi de pair. Donc créatrice de ma vie, en fait, c'est la conséquence pour moi. C'est la conséquence de tout ce qui a été fait en amont. C'est la conséquence de j'ai fait un travail de fond pour traiter mes traumas, pour connecter, m'écouter, écouter mon corps, écouter mes sensations, mes émotions. J'ai connecté avec l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle circule et me donne cette force, cette énergie, cette vie en fait. Je connecte avec quelque chose qui dépasse mon petit moi, qui me guide aussi. Et de cet espace, je deviens créatrice de ma vie. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment une conséquence de tout le travail qui est fait en amont. Et le leadership intégré, pareil, en fait. C'est-à-dire que créatrice de ma vie, je peux être juste moi avec moi-même. Leadership, ça implique d'autres personnes. Et leadership, ça ne veut pas dire que je vais dire à d'autres personnes ce qu'elles doivent faire. C'est ma vie devient ce leadership parce que quand je vis ma vie, quand les personnes voient comment je vis ma vie, comment est-ce que je guide mon business, comment est-ce que je fais ci ou je fais ça, ça peut les inspirer. Et pour moi, ça aussi, ça fait partie du leadership. Comment est-ce que je vis ma vie, ce que je dégage, ça donne aux autres personnes qui nous regardent, en fait, cette sorte d'autorisation, se dire « Ah oui, en fait, ça aussi, c'est possible. Ah oui, en fait, je peux me permettre de faire ça. Je peux me permettre de suivre mes rêves, de faire quelque chose qui m'anime. Je peux me permettre de changer de positionnement. Je peux me permettre ci et ça. » Et après, donc évidemment, ça peut aussi s'exprimer dans notre entreprise, dans d'autres domaines. Voilà ce que le déroulé du parcours.
Qu'est-ce que, imaginons, il y a le sommet qui se passe là sur les 5 jours, qu'est-ce qui vraiment te toucherait le plus de voir émerger juste après le sommet?
Bah, ce qui me toucherait le plus, c'est les transformations chez les personnes, parce que je ne suis pas une... se nourrir intellectuellement, c'est bien, donc quelle que soit la thématique, tu vois, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nécessairement... ça peut, hein, mais pour moi, le vrai... indicateur, c'est est-ce qu'il y a un changement, tu vois. Et le changement, ça peut être un changement dans la vie de la personne, mais aussi ça peut être une prise de conscience. Donc, la prise de conscience, tiens, en fait, il faudrait vraiment que je regarde ça. Et pour moi, ça, c'est un indicateur aussi de réussite. La prise de conscience de, bah, en fait, il faudrait peut-être que je regarde mes émotions ou il faudrait que je regarde qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer réellement. Prise de conscience et transformation, pour moi, c'est ça, les indicateurs.
Ce qui m'a le plus touchée, là, dans ce que tu as partagé, c'est quand tu as dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient formées donc au business quantique, en quelque sorte. Je me connecte à des vibrations, des fréquences hautes et j'y vais. Je suis capable d'aller vers le million. Je suis capable de le faire très rapidement. Et là, tu es revenu en disant ta, 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 ta. En fait, il y avait des fondations à créer avant et ça peut entraîner des troubles intérieurs parce qu'en plus, on y a cru tellement fort. Et la déception, elle est tellement grande. Si on ne peut pas accueillir la déception, ça peut même recréer des petits traumas en fait à l'intérieur. Et enfin, toi, tu parlais de ça. Moi, je dis que ça peut créer des petits traumas à l'intérieur, et ce qui fait que les personnes sont figées après et qu'elles ne créent plus rien parce qu'elles n'osent même plus avoir la foi en ce qu'on peut créer et ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui m'a le plus touchée dans ce que t'as partagé. Et donc, pour toutes les personnes qui écoutent, qui se voient dans cette situation-là, où bah ouais, vous avez fait des gros investissements, vous y avez cru. Je vous invite juste à repositionner comment c'est possible de reposer des fondations, sachant que souvent, moi, on me dit oui, mais j'ai déjà posé des fondations. Moi, j'aimerais quand même partager que mon parcours pour poser mes fondations, il a duré au moins 10 ans, dont des expériences. Quand je dis que j'ai passé 4 mois et demi dans un ashram chez Ama à juste méditer, à rien faire, dont 2 mois quasiment en silence toute seule parce que je faisais une cure ayurvédique de Panchakarma, je peux vous dire qu'il y a des moments où les fondations, ça met du temps. 1 mois de yoga thérapeutique dans un centre pour réaligner tout mon corps. Une retraite avec des chamans à Ayahuasca au Pérou. Je ne dis pas qu'il faut forcément voyager, mais il y a quand même les fondations. Surtout quand on était conditionné dans un système qui n'était pas le nôtre, c'est pas juste quelques pratiques tous les jours de, je prends un exemple comme ça, mais un petit peu d'EFT qui va modifier profondément les fondations. Il y a quand même besoin d'y aller en profondeur et ça prend du temps d'instaurer des nouvelles fondations. Et parfois, on se dit, ah, les fondations, elles sont là, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'on a besoin d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses, Rubina?
Je suis 100% d'accord avec toi. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce n'est pas forcément dans un ordre séquentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas « j'ai fait mes fondations une fois pour toutes et c'est fini ». En réalité, ça continue à se faire tout au long de notre vie par différents mécanismes. Donc la première chose, c'est que plus on fait ce travail de consolidation, de solidité, plus notre psyché nous donne accès à des endroits les plus fragiles de notre être. Parce que tant qu'on n'est pas consolidé, il y a plein de choses en nous auxquelles on n'a pas accès. Donc aussi, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que plus on fait le travail, plus on construit les fondations, plus on se consolide, plus on touche à des zones qui sont hyper fragiles. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi l'année dernière. J'ai eu un espèce d'énorme épisode. C'était affreux. Enfin, dans les ressentis, dans la difficulté. Et j'avais déjà fait un travail. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pas parce qu'il y a un problème, pas parce que ça va mal, parce que j'avais suffisamment fait de travail pour que mon être me permette d'accéder à ces parties hyper fragiles. Et peut-être qu'il y en a d'autres, et certainement il y en a d'autres. Et c'est aussi accepter ça, accepter cette cyclicité, accepter le fait que c'est un processus, et pour moi c'est aussi important d'accorder notre activité autour de ça. Donc moi je sais que périodiquement, tu vois, c'est-à-dire que mon état, il n'est pas stable. Et pour moi c'est une sorte d'utopie de se dire qu'à un moment donné tout sera stable, tout ira bien, on se sentira très bien. En fait, dans la vie, c'est normal aussi ces oscillations. Donc, que ce soit en lien avec des événements de la vie. Tu vois, par exemple, s'il y a une séparation, c'est normal de passer à travers une étape de chagrin, de difficultés émotionnelles, etc. Quelqu'un décède, quelque chose ne fonctionne pas dans une amitié. Donc, tu vois, il y a tout ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi nos processus intérieurs. Et je pense que c'est essentiel dans notre activité de faire de la place pour ça. Donc, moi, je sais que quand je traverse ces phases, j'accorde beaucoup d'importance aussi. S'il y a besoin, je ralentis mon activité. Tu vois, l'année dernière, enfin pas cette année-là qui vient de passer, mais celle d'avant, j'avais ressenti ça. Du coup, j'ai ralenti beaucoup de choses de mon activité. J'ai quasiment rien fait pendant plusieurs mois. Et pour moi, ça fait partie aussi de cette nouvelle façon de gérer notre activité. C'est que comment est-ce que je construis quelque chose qui peut s'ajuster à mes rythmes? Je connais d'autres entrepreneurs qui aussi se prennent 8 mois off, qui ensuite reviennent. Donc, je pense à Margot qui est aussi invitée au sommet, donc Margot Aman, qui a pris, je ne sais pas, 7-8 mois off l'année dernière, qui est revenue et son activité fonctionne parfaitement. Donc c'est aussi casser ce mythe de « oh mon Dieu, si je prends soin de moi, si je me recule de mon activité, tout va s'écrouler ». Ce n'est pas vrai en fait. Et en réalité, plus on prend soin de soi, plus… Parce qu'on est notre, comment on dit en français, asset, on est notre atout en quelque sorte.
Capital atout, oui.
Ouais, le plus important. Et quand on prend soin de ce capital, de cet atout, forcément, ça va payer à un moment donné, donc quelle que soit dans la façon de le considérer.
J'avais une question à te poser, j'étais en train de me dire, mais attends, est-ce que je la pose maintenant ou pas? Mais si, ça y est, j'ai décidé. est-ce que tu pourrais nous partager, pour les personnes qui nous écoutent, 2 ou 3 grandes leçons entrepreneuriales pour toi que tu as acquises sur le terrain? Donc ça fait vraiment partie de ce que tu as transformé et ce qui est essentiel et que tu as envie de communiquer aux personnes qui nous écoutent, sachant que, tu vois, juste pour expliquer pour les personnes qui écoutent, donc Rubina, toi, tu es quand même accompagnante depuis très longtemps, tu as aujourd'hui une équipe, tu as atteint des niveaux de chiffre d'affaires qui font que c'est une entreprise qui est positionnée, qui fonctionne, qui peut payer ses prestataires, ou toi, tu peux aussi t'autoriser et te permettre de prendre 8 mois de pause, tu vois, quand on a besoin ou un peu moins, parce que là, tu parlais du cas de Margot. Donc, tu as une activité qui est assise. Donc, forcément, tu as reçu des enseignements de ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous en partager 2-3?
Merci pour cette question. Donc, c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été, avec la sexualité, un vrai chemin de transformation personnelle. Et je pense que l'entrepreneuriat révèle beaucoup de parties de nous, révèle beaucoup de choses qu'on doit regarder. Et l'une des leçons que je vais partager, en fait, c'est paradoxalement pas forcément dans la difficulté, mais plus dans cette capacité d'expansion. Donc, j'avais jamais une approche vraiment du business comme je traque le chiffre d'affaires, je traque combien je fais. Et particulièrement, donc, quand j'ai commencé, j'étais pas en train de regarder les chiffres, en fait. Et c'est quand j'ai voulu faire un des premiers masterminds que je regarde les chiffres d'affaires. Donc, du coup, je vois que c'est au-delà de 100 000 pour l'année. Et du coup, ça a été un peu une « Ah tiens, bon, en fait, j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. » Et en fait, ça a été vraiment dans cette identité de « aujourd'hui, je fais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. » Et ça a été dans ce positionnement de… Il y a eu un truc, un peu un bug intérieur, tu vois, de une nouvelle identité, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi, ça fait partie des paliers qu'on peut ressentir, de quand je passe certains paliers de chiffre d'affaires, de se dire, OK, ben en fait, qui je suis à ce palier de chiffre d'affaires? Et ça a été une vraie difficulté. Donc, pas dans une expérience de c'est difficile, je galère, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est plus de l'autre côté de, en fait, maintenant, je suis assise, enfin, tu vois, je suis là, est-ce que je vais arriver à le maintenir? Est-ce que, comment ça va se passer? Tu vois, donc, c'est plus autour de cette question d'identité. Et j'avais écouté aussi certains podcasts à cette époque-là qui parlaient justement de ces paliers qu'on passe, des parties de notre identité en fait, qui se disent, mais en fait, qui est-ce que je veux devenir, comment est-ce que je vais... Il y a une vraie peur en fait, il y a une vraie peur y compris dans cette expansion. Donc ça, c'était un enseignement. Et je pense l'autre enseignement, ça a été autour de l'équipe, parce que j'ai eu de grandes difficultés avec mes assistantes en fait. Donc il y a eu plusieurs assistantes avec lesquelles j'ai pu travailler au cours de ces dernières années. Il y a eu une assistante avec qui ça a bien fonctionné pendant un long moment, mais du coup à un moment donné on s'est séparés, et après cet épisode là j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver quelqu'un. Et en fait cette période là ça a été une grande période d'enseignement pour moi en tant que personne qui a besoin d'aide. Donc la première chose, c'est que je comprends que je ne peux pas faire toute seule en fait, c'est à dire que c'est pas possible de construire quelque chose qui a de l'ampleur toute seule. Ça n'existe pas. Et en fait, je contemplais récemment, tu vois, ne serait-ce que, tu vois, comment fonctionne une ville, comment fonctionne, tu vois, la vie dans laquelle on vit. Imagine, tu vois, il y a quelqu'un qui construit des routes, il y a quelqu'un qui fait fonctionner les trains. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Une société a besoin de collaboration pour exister. C'est-à-dire, quand on regarde la vie entière, imagine une vie où il y aurait que moi, où je peux compter que sur moi. Ça serait extrêmement difficile. Il y a des gens qui le font, donc les personnes qui font le choix volontaire de vivre complètement off-grid. Mais c'est compliqué comme vie, c'est difficile. Et pareil dans l'entrepreneuriat, en fait, on a besoin d'autres personnes pour construire. Et la difficulté que moi j'ai rencontrée, et je pense d'autres personnes peuvent rencontrer, c'est j'ai une certaine façon de faire les choses, j'ai une certaine façon, un certain standard de comment je veux que les réponses soient écrites, comment est-ce que je veux tenir certaines choses, etc. Et j'ai réalisé que d'autres personnes font autrement, tu vois. Et c'est ça qui a aussi été un terrain d'apprentissage, de comprendre que j'ai besoin d'exprimer très clairement ce que je veux, parce que ma personne ne lit ce que j'ai dans la tête, tu vois. Personne ne... Enfin, ça arrive, tu vois, qu'il y ait une résonance, comme dans nos relations amoureuses, il y a aussi des relations de travail qui matchent, ça avance bien, tu vois, et ça se fait tout seul. Tu vois, par exemple, avec Maya, donc la web designer que tu as pu mentionner, ça se passe hyper bien, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble, c'est fluide, tu vois, il n'y a pas de pression. On se dit les choses, j'ai aucun filtre avec elle, j'aime pas, même encore parfois m'en faire des trucs, je dis j'aime pas du tout, et je sais que je peux me le permettre parce qu'on a cette relation, parce que ça match, parce que tu vois, il y a cette franchise, cette honnêteté. Donc il y a des relations où c'est fluide dès le départ, il y a des relations où c'est compliqué. Et moi, ça a été un terrain d'apprentissage sur moi, qui je suis en tant que personne qui va communiquer ce que je veux. Donc ça a été un terrain d'apprentissage pour exprimer de plus en plus clairement ce que je veux, ne pas supposer que quelqu'un va deviner. Et c'est aussi une question de match. C'est-à-dire que c'est pas que moi le problème. C'est aussi, il y a des fonctionnements qui ne matchent pas. Par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui organise mes trucs 8 mois à l'avance. Je ne sais pas ce que je vais lancer dans 8 mois, tu vois. Je ne sais pas quelle va être la calendrier de l'année. Si je travaille avec quelqu'un qui a besoin d'un truc hyper structuré, hyper carré, qui a besoin d'être organisé à l'avance sur les prochains 8 mois, ça ne va pas matcher, en fait. C'est-à-dire qu'elle va être dans la douleur, moi, je vais être dans la douleur, parce que moi, je vais la stresser, elle va me stresser. Et c'est aussi apprendre à comment on fonctionne, qu'est-ce qui est important pour soi, et choisir des personnes avec qui on est en adéquation là-dessus. Et au-delà de ça, donc de ces aspects hyper pratiques, c'est aussi faire confiance à mon intuition, parce que j'ai appris encore et encore et encore et encore, tu vois, quand je connecte avec quelqu'un, il y a une intuition en moi qui dit c'est pas la bonne personne, et mon mental me dit non mais non, c'est bon, elle a toutes les qualités, on va essayer. Et à chaque fois c'est un désastre. Et après, tu vois, l'assistante que j'ai en ce moment qui est top, qui s'appelle Elodie, j'ai senti dès le départ, tu vois, intuitivement, donc la première semaine était là, j'ai senti, parce que j'ai aussi cette capacité énergétique à ressentir les choses, c'est le bon match en fait. Je sens son énergie dans l'entreprise, je sens que c'est fluide, je sens que c'est aligné. Et ça fonctionne bien, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on collabore ensemble et ça se passe bien. Donc c'est faire confiance à mon intuition, ajuster des choses sur comment moi je conduis les choses. Donc ça aussi, ça a été un apprentissage.
Et justement, ça me renvoie à la question que je voulais te poser sur les prêtresses des temps modernes. J'ai choisi de modifier le positionnement dernièrement des Terres d'Alma et d'assumer qu'on soit des prêtresses des temps modernes. Positionnement qui est excitant pour beaucoup de personnes et pour d'autres qui est « Waouh, où est-ce qu'elle est partie prêtresse, prêtre, ça ne me parle pas du tout. » Et là, tu viens de donner un exemple concret pour moi de ce qu'est une prêtresse. Donc une prêtresse, elle porte un mouvement dans ce monde et elle va se connecter à des énergies subtiles. Et donc là, tu disais « Ben voilà, je me suis connectée, tu vois, tu t'es connectée à ton assistante, tu as senti quelque chose dans le champ qui grandissait comme ça quand elle est venue. » Pour moi, c'est une capacité aujourd'hui, quand on est CEO, de nous élever en tant que prêtresse, de ressentir où on amène la vision, d'aller dans l'invisible, de réguler ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est un exemple concret. Est-ce que tu te sens prêtresse? Est-ce que tu pourrais nous raconter comment c'est pour toi d'être une prêtresse des temps modernes? Comment ça te parle? Parce que pour moi, tu l'incarnes, mais voilà.
Peut-être que je l'incarne, et c'est, tu vois, dans ce que tu dis, je me reconnais tout à fait, tu vois, dans le fait de sentir les choses à plein de niveaux, en fait. Donc, ça se fait au niveau des programmes que je guide, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est un contenant, il y a un champ énergétique qui se crée. Parce que, quel que soit le cas de figure, à partir du moment où on travaille avec quelqu'un, il y a un lien qui se crée, il y a un champ d'énergie qui se crée. Quand c'est un groupe, ce qui se passe, c'est que, du coup, chaque personne de ce groupe va avoir une influence. Donc, y compris, tu vois, quand il y a un programme de groupe et que les personnes sont complètement absentes, il y a quand même une partie de leur énergie qui est dans ce champ et, du coup, qui influence ça. Pareil aussi dans l'équipe, dans les personnes. Et je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas fluides depuis un moment. Je le sais, je le vois. Je ne prends pas action dessus, mais du coup, ça a une influence. Donc, tout ce dont tu parles, ça me parle. Je fonctionne comme ça. Maintenant, c'est vrai que j'utilise très peu ces termes-là, prêtresse, tu vois. C'est pas des termes que j'utilise. Pourquoi ? Parce que c'est... Aujourd'hui, c'est un terme qui est surutilisé pour moi. Et du coup, ça perd un peu de la substance, tu vois. Ça perd, tu vois, c'est-à-dire que c'est des termes qu'on voit partout. C'est la même raison pour laquelle je n'utilise quasiment pas le mot tantra dans mon activité. Tu vois, pas qu'il y a un problème avec le terme. Il n'y a pas de problème avec le terme prêtresse. Il n'y a pas de problème avec le terme tantra. Mais c'est juste que la quantité de choses diverses aujourd'hui qui sont sous cette appellation est tellement grande, tu vois. Si je parle de mon domaine tantra, ma formation s'appelle Tantrika, mais je vais changer de nom parce que c'est trop dilué, en fait. Le terme est trop dilué. Ce qu'on va mettre sous l'appellation tantra, tantrika, c'est trop dilué. Et donc, c'est un choix personnel. Je raisonne avec la réalité qui est en dessous et je raisonne moins avec les termes. Donc moi, dans ma démarche personnelle, c'est vraiment plus un travail d'épuration, tu vois, c'est-à-dire enlever tous les termes qui vont amener ce côté supranaturel, même si ça fait partie de ma réalité, de mon quotidien, de choses auxquelles je peux connecter, tu vois, au niveau de l'âme. Donc c'est des choses qui résonnent complètement pour moi, mais je vais moins utiliser les termes, tu vois, je vais simplifier dans les mots, et je pense que personnellement, je vais plus dans cette direction-là, de simplifier. Et quand les personnes le ressentent, tant mieux, tu vois. C'est-à-dire que je résonne avec la réalité. Et si les personnes le ressentent, oui.
Est-ce que, du coup, tu peux nous décrire derrière cette réalité de la prêtresse, qu'est-ce qui se passe concrètement? Sachant que moi, de ce que je ressens, c'est que... Donc, avant, nous avions des prêtres, des prêtresses qui étaient là pour diriger les énergies dans un sens dans notre société. Aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs et les hommes politiques qui vont diriger la société dans un sens, mais tout l'aspect connecté au divin est un tout petit peu déconnecté. Quelle est la source des actions? Je me pose la question. Je me pose réellement la question. Et je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs spirituels, en se reconnectant comme ça au divin et en étant la main au service d'énergies subtiles, on peut impacter le monde différemment et le nourrir d'une essence qui nous manque aujourd'hui, conjointement, dans le monde. Et moi, je pense que tu représentes ça. C'est quoi ta réalité pour toi, du coup? Même si le terme, tu ne souhaites pas l'utiliser, mais de la prêtresse.
Alors, tu vois, en fait, si on revient à l'origine de prêtresse, c'est quoi une prêtresse, tu vois, dans les temps plus anciens? C'est une personne qui est au service du divin, pour moi. C'est-à-dire qu'une prêtresse, c'est une personne qui agit dans la vie à partir de cette profonde connexion avec la source. Et quand je dis qu'il agit au service du divin, dans les différents types d'énergie, en fait, il y a différentes choses avec lesquelles on peut interagir. Tu vois, parce qu'on commence à connecter avec les énergies, il y a plein d'entités, en fait. Et Pour moi, une prêtresse, en fait, c'est, elle est uniquement connectée à la source. Elle peut interagir avec les autres énergies, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie de choses. Et ça fait le lien aussi avec le monde du tantra. Parce que quand on commence à travailler, tu vois, quand on commence à avoir une pratique tantrique, au-delà de ce qu'on appelle par le mot tantra beaucoup en Occident, pour moi, le tantra, c'est une voie d'éveil. C'est une voie qui est dédiée, en fait, à l'éveil. Et sur cette voie-là, on peut travailler avec différentes énergies, différentes typologies d'énergie. Donc, tu vois, on peut parler, par exemple, des Mahavidyas. Donc, les Mahavidyas, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est les 10 déesses, tu vois, tantriques qui vont représenter différents aspects de l'énergie. Donc, probablement, parmi les plus connus, on va avoir Kali, Tara, mais ce n'est pas les seuls. Donc, il y en a 10 qui représentent différents aspects. Donc, Tripura Sundar, qui va représenter vraiment la beauté divine. Dumavat, qui va, au contraire, représenter quelque chose qui est très dans le dépouillement complet, en fait. C'est une énergie avec laquelle les personnes vont pas forcément vouloir travailler. Je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais simplement pour dire que il y a différents degrés d'énergie. Et du coup, c'est aussi avoir conscience de avec quelles énergies j'interagis et avoir conscience dans quel but. Parce que quand on sort en fait de la perception uniquement matière de la réalité, les personnes vont avoir différentes capacités d'interagir avec ces énergies. Donc, il y en a qui vont être plus dans une sorte de fantasmagorie de j'interagis avec ça, mais ça, en fait, c'est plus du domaine de l'imagination. Donc, il n'y a pas vraiment de réalité derrière. C'est plus l'imagination qui travaille. Et il y a des personnes qui vont effectivement avoir la capacité d'interagir avec ces différentes énergies et de moduler leur réalité avec ça, en fait. Et là, ça fait partie d'être créatrice de sa vie parce que on ne travaille pas juste avec la réalité, on travaille avec d'autres niveaux de réalité qui peuvent influencer directement notre vie. Et plus, en fait, on avance dans cette finesse d'interaction, de connexion, de capacité d'interagir avec la réalité autrement, plus c'est aussi une responsabilité qui vient avec ça. Et ce qui se passe, en fait, quand on sort vers cette réalité-là, c'est que la seule chose qui guide, du coup, c'est notre compas intérieur de pourquoi je fais les choses. Quelle est la pureté d'intention. Et c'est là qu'on peut se perdre beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que si on n'a pas un fort compas intérieur de au service de quoi je suis, on peut utiliser ces énergies, en fait, au service de n'importe quoi. On peut utiliser au service de notre vie personnelle. On peut utiliser pour devenir riche. On peut utiliser pour influencer d'autres personnes, on peut utiliser pour faire le mal aussi. Donc en fait, c'est le fait de commencer à interagir avec les énergies, ça nous sort un peu ça nous confronte à notre compas intérieur de pourquoi je fais ça, dans quelle direction j'oriente les choses et quelle est mon intention. Et pour le coup, tu vois, pour les pratiques qui sortent à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de secrets, en fait, dans si je te parle du tantra notamment, donc tu vois, au-delà de ce qu'on peut appeler tantra dans l'Occident, toutes les pratiques tantriques qui vont vraiment activer l'énergie de la Kundalini, qui vont permettre de travailler avec certaines énergies, donc notamment les Mahavidyas, ça donne une puissance, puisque petit à petit, tu actives certaines choses dans ton corps, tu as une plus grande responsabilité dans ce que tu en fais, puisque tu as plus de puissance. Tu as plus de puissance, donc tu as plus de responsabilité de ce que tu fais avec cette puissance. Et encore une fois, le truc crucial, la partie cruciale, c'est quelle est ma pureté d'intention. Donc, tu vois, par exemple, quand j'ai mes groupes ou ma pratique individuelle personnelle, c'est toujours en connexion avec la source. Je ne veux pas interagir avec des entités, ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille pas du tout avec ce niveau, je ne veux pas interagir avec, même si ça pourrait effectivement aider parce que c'est plus proche, en fait, de notre plan. Je suis partie un peu trop loin là pour...
Alors, t'es pas du tout partie trop loin. Je bois toutes tes paroles. Je bois toutes tes paroles parce que tout ce que tu viens de détailler, derrière, il y a énormément de choses que je dénonce, en fait. Et qu'on m'a dit, Amandine, mais fais un podcast sur ce sujet-là. Moi, je suis à Copenhague, sur une île, on travaille beaucoup avec les énergies. Et je dis toujours, avec quelles énergies vous êtes en train de travailler et de vrai.
Et la plupart des gens n'ont pas conscience avec quoi ils travaillent parce qu'ils ne savent pas. Et donc, du coup, ça a des conséquences.
Et quand on ouvre des portails, il peut y avoir des très belles entités, mais il peut y avoir des entités de merde. Et c'est hyper chaud à gérer. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais allée en Inde, Il y a des formations Reiki sur 2 jours, etc. Et moi, je dis toujours, une personne qui a fait du Reiki n'a pas le droit de me toucher. Et bon, bref, mais c'est parce que je suis un peu extrême, mais j'entends tout ce que tu as dit, je l'entends. Et merci de l'avoir reprécisé. C'est un domaine vaste et il y a mon mentor qui nous a beaucoup sensibilisé à ce qu'on peut faire de l'énergétique, mais faire de l'énergétique avec conscience, c'est un autre domaine. Et je pense que c'est tout ce que tu viens de raconter là, l'énergétique ou l'énergétique avec conscience. Il se passe plein de choses. Voilà, merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. On va arrêter là l'échange parce qu'il y a un temps qui est compté. Sinon, j'aurais aimé te poser une question supplémentaire, mais voilà. Merci, Rubina. Moi, je vous invite, pour toutes les personnes qui écoutent, à rejoindre le sommet. Vous allez voir, il y a plein d'étapes, en fait, plein de champs qui sont proposés. Donc, vous allez adorer. Le sommet, il est en mars 2024. Je vais vous mettre le lien avec toutes les infos. Est-ce que tu as envie de rajouter un message de fin, Rubina ?
Merci à toi, Amandine. Et je vous souhaite à toutes qui nous écoutez de connecter avec votre puissance créatrice et de prendre conscience aussi de quels sont les blocages qui vous empêchent de l'exprimer et qu'est-ce qui pourrait vous aider pour rentrer dans votre pleine expression. Parce que c'est important, la prise de conscience, c'est vraiment la première étape.
Merci à tous et à bientôt. Merci Rubina.
Merci.